Irénée Routema dans Laurent, les trois, on a plein d'affaires à jaser avec lui. Mais là, en passant, il est encore aussi, tu sais, nous devons convaincre les non-vaccinés, ces choses-là. Mais on a dit aussi qu'on allait vivre avec, écoute ça, on écoute ça, on écarte l'idée d'un nouveau confinement, fait qu'il n'y aura pas de nouveau confinement, ça c'est sûr, parce qu'il y a des gens qui commencent à l'envisager. Puis François Legault estime qu'il faudra accepter de voir une hausse des personnes hospitalisées en raison de la COVID-19. Et dans le fond, il rejoint un peu le propos du ministre Dubé sur Facebook la semaine dernière, mais il avait lâché ça sur Facebook, puis il l'avait comme pas commenté, fait que ça laissait place à l'interprétation. Il y en avait qui disaient « Ah, crime, ils vont, ça veut dire qu'ils vont avoir un relâchement des mesures », puis il y en avait d'autres qui disaient, au contraire, que les mesures allaient durer à l'éternel, sinon puis allaient être même durcies. Fait que de ce que je comprends, il n'y a pas là, on dit des choses, mais il n'y a pas grand-chose qui change, là. Pour l'instant, on va aller voir Irénée, comment est-ce qu'il a vu ça, lui. Salut Irénée, comment tu vas?
Bonjour, bonjour, ça va bien.
C'est une longue présentation, hein? C'est une longue... J'étais parti, moi, là. C'était une longue présentation, excuse-moi, mon chat.
Oh, il n'y a pas de souci, là. Et bonjour, Rems aussi. Tu es rendu mon ami Facebook.
Ben oui.
Ah, là, c'est grand, là.
J'aime ça, nos discussions.
Vous êtes maintenant des amis Facebook.
Oui, on est rendu presque dans l'intimité, là.
Ben oui. Dans pas long, si RMS réussit à taguer dans une de ses publications Facebook, là, je vais me poser des questions.
Ouais, je vais.
Parce que moi, j'y arrive pas.
Ça serait le fun.
J'y arrive pas en tout.
Comme je l'ai dit, Laurent, je suis impatient avec la technologie.
Ouais.
Je pense que j'ai quelqu'un qui nous écoute de la République française.
OK, on les salue.
C'est elle qui m'aide d'habitude. Mais là, elle n'est pas là. Donc, je suis un peu mal pris avec ce petit problème technique.
Ah, il n'y a pas de problème, J'aime aussi que lorsque tu m'as écrit ce message-là, tu te rapproches de RMS, mais tu n'y envoies pas encore des messages enveloppés de cœur. Ça, tu gardes ça pour moi.
Oh là 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 là. En tout cas, t'es pas très discret, mon ami.
Non.
Moi, je suis animateur.
Moi, je suis pas moi. Tout, c'est transparent dans Laurent et les Trouvants. On est de même.
Ah ouais, ben oui.
Ça fait un peu spécial, par contre, là, que tu m'as envoyé ça sous forme de cœur.
Oh, ouais.
C'était pas voulu. C'était pas voulu, moi, de toute façon.
Moi, je dis souvent à mes amis que le métier que nous exerçons, c'est un peu des potineurs, des potineux professionnels.
Ouais.
On est payé pour potiner.
Excellent. Puis là, on a quelques sujets avec toi. En passant, je te l'ai pas demandé, je veux pas te prendre de cours non plus, mais toi, tu penses quoi de ces différents points de presse-là, de Legault, Dubé et Arruda? Surtout, tu sais, comme aujourd'hui, on dirait qu'il essaie de faire un peu du damage control, mais je comprends plus ou moins le message, là. Je pense que c'est en réaction à la publication du ministre Dubé là, par rapport qu'il fallait vivre avec le virus, mais qu'est-ce qu'ils disent de plus, là?
Moi, je pense qu'avant, je pense que je voulais juste dire que nous sommes extrêmement en retard si on se compare à l'Europe, parce qu'il y a peut-être 2 ou 3 mois, le premier ministre de l'Angleterre, Boris Johnson, il avait dit qu'il fallait qu'on apprenne à vivre avec le virus.
C'est ça.
Monsieur Macron aussi, le président de la République française, qui nous inspire souvent, nous au Québec, tout ce qui vient de la France, des fois, c'est parole d'évangile. Je pense que lui, il a dit aussi il y a quelques mois qu'il fallait vivre avec le virus. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Moi, je trouve que c'est une stratégie qui a servi à M. Legault au début de la pandémie. Mais aujourd'hui, nous sommes tous fatigués. Les gens qui écoutent les points de presse de Legault, je pense que...
Il n'y en a plus beaucoup. Au début, c'était un rendez-vous là, pour à peu près tout le monde. Maintenant, ça doit être assez minime, les gens qui regardent ça religieusement.
Oui, moi, je dirais c'est la communication. Je communique, donc j'existe. Donc, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose à nous annoncer et ils communiquent seulement pour exister dans l'imagerie collective qu'on part d'eux et que la rentrée parlementaire s'en vient. Et le Parti québécois, je sais que le Parti québécois est en caucus pré-sessionnel dans la Malbaie. Non, je ne sais pas. En tout cas, dans la région de Charlevoix, je ne me souviens pas de la ville.
Pas problème.
Et donc, on ne part pas d'eux. Aujourd'hui, on part de Legault et il va occuper l'espace médiatique pendant aujourd'hui. Et nous, on en parle et probablement demain matin aussi.
Ouais, c'est ça.
Stratégie qui moi, me fatigue. Et je pense qu'il fatigue beaucoup de gens. Et nous sommes en retard sur les autres pays européens, comme je le disais tout à l'heure.
En tout cas, dans les seules annonces réelles qu'il y a eu là, pour l'instant dans le point de presse, c'est que, dans le fond, à partir du 15 octobre, tous les travailleurs de la santé, autant au public qu'au privé, devront être vaccinés contre la COVID-19. Moi, je trouve que se mettre une date comme le 15 octobre, encore une fois, là, c'est un échéancier qui est court, connaissant. Ça va être. Puis là, on veut pas en perdre plein, là, on peut pas
mais
perdre
non,
plein.
Non, on peut pas se permettre de perdre tant de.
Non, c'est ça. Fait que, je sais pas trop ce qui s'en va avec ça. Mais tandis qu'ils ont pas mis de date pour ce qui est du passeport vaccinal, corrigez-moi si je me trompe. Mais quand est-ce qu'on allait arrêter de s'en servir? Parce que je sais qu'en France, on l'utilise, le passeport vaccinal, mais on a mis une date qu'à partir de telle date, là, je ne sais pas exact, là, une journée X. Ça ne sera, on ne l'utilisera plus. T'sais, au moins, ça donne une petite lueur d'espoir.
On a entendu Dr Arruda qui mentionnait que la vaccination chez les tout-petits ne commencerait pas avant janvier. Quand il s'est fait répondre, c'est quand la date de fin du passeport vaccinal?
C'était ça sa réponse?
Il a dit ça en nuance. Il n'a pas dit c'est en janvier à cause qu'on va vacciner les tout-petits, mais il a dit je sais pas, compte tenu du fait que c'est en janvier qu'on va peut-être vacciner les tout-petits. Pis...
Mais en gros, je pense que le gouvernement a fait un bon travail pendant la pandémie, surtout la vaccination. Mais ce que je reproche au gouvernement, c'est qu'ils n'acceptent pas, ils ne nous disent pas qu'ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Moi, j'ai respecté les mesures sanitaires autant que possible. Donc, le confinement...
Le couvre-feu...
J'ai triché un peu le couvre-feu, je vais le dire.
Oh!
Et je ne donnerai pas ma stratégie, mais bref. le couvre-feu, maintenant, le passeport logo Arruda et Dubé, donc c'est c'est comme ça j'appelle le pass sanitaire, comme on dit dans d'autres pays. Et là, maintenant, mais comme les Anglais le disent, mais what's next? On ne sait pas ce qui va arriver. Et ça me fait réfléchir. Au départ, quand la pandémie a débuté ici, on parlait de comment la courbe d'aplatir la courbe.
Ouais, on a commencé par aplatir la courbe. On a commencé par dire qu'il fallait réduire le nombre de décès. Après ça, c'était aplatir la courbe. Après ça, c'était qu'il y ait moins de personnes d'hospitalisées. Après ça, c'était fallait aussi que le pourcentage de délestage diminue. Je pourrais continuer éternellement. Là, c'est le variant. Là, on est sur le variant. Puis, tu sais, il faut. Mais moi, de ce que je comprends, tant qu'il n'y a pas de décès, les différentes personnes vulnérables, la très grande majorité, sinon presque toute la gang, pas toute la gang, mais disons la très grande majorité a été vaccinée. Les soins hospitaliers, c'est sûr, il ne faut pas que ça augmente en flèche, mais il va y en avoir une certaine hausse. Puis là, même Legault le reconnaît, il faut qu'on vive avec ça. C'est sûr qu'il va y en avoir encore des personnes qui vont être hospitalisées en raison de la COVID, mais regarde, là, on a 11 de plus là, aujourd'hui. On est rendu à 171, mais je me rappelle, à un certain moment, il y en avait 600. Là.
Fait que, dans les hôpitaux, c'est assez complexe. Par exemple, j'ai un ami qui a eu un enfant samedi soir. Donc, sa femme est rentrée à l'hôpital. Okay. Elle a passé un test de COVID. Et lui, il est allé visiter sa femme, il l'a accompagnée lors de l'accouchement et on ne lui a pas fait passer un test COVID.
Pas lui. Alors ça, que. Hein? Non, mais ça, c'est étrange. Là. Ça, c'est une lacune, là, clairement. Là.
C'est factuel. Un autre exemple, j'ai une amie qui a eu un cancer du sein. Elle nous a quittés depuis et je suis allé lui rendre visite dans un hôpital à Sainte-Foy. À la limite de Sainte-Foy et Québec, je pense qu'on pourra deviner c'est quel hôpital.
Ouais, on la nommera pas, là, mais...
Oui. Donc, sur le chemin Sainte-Foy, cet hôpital-là.
Ouais.
Et donc, nous nous sommes rencontrés dans la cafétéria de l'hôpital. Et je vous le jure, la table était sale. Elle, à ce moment-là, elle était immunosupprimée. Et ce qui est arrivé, c'est que elle a pris l'initiative de prendre ses serviettes de désinfection personnelles pour essuyer la table. Là, je me suis dit, mais sommes-nous dans un hôpital d'un pays avancé, membre du G8? Sommes-nous dans un hôpital de brousse, dans un endroit où il y a une guerre? Donc, il y a beaucoup de contradictions et parfois, j'ai l'impression que le gouvernement n'est pas n'est pas de la poutine interne. Par exemple, moi, je pense que M. Legault devrait aller visiter un hôpital. Donc, qu'il s'habille, mais qu'il mette son couvre-visage et qu'il se fasse désinfecter en entrant à l'hôpital. Mais après ça, mais qu'il voit ce qui se passe sur le terrain.
Oui, c'est ça, sur le terrain. C'est toujours ça. C'est important d'être plus proche du terrain.
Oui, parce que sur le terrain, je pense que c'est très difficile pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux et je les salue. Donc, gérer tout ça, c'est gros. Et nous savons que nos hôpitaux, nous n'avons pas les meilleurs hôpitaux, en tout cas, si on se compare aux pays du G7.
Non, c'est sûr que c'est pas un gros char, là, malheureusement, ça a toujours été, là. C'est juste que là, avec un événement comme la pandémie, ça fait juste ressortir encore plus les différentes lacunes au niveau de notre régime de santé. Mais tu voulais nous parler d'autre chose, là?
Oui.
On va rester dans le provincial, disons, avec un transfert vers le municipal, c'est-à-dire, tu nous parles des anciens députés du Parti québécois, puis c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui se recyclent en politique municipale. Puis toi, tu as une raison derrière ça? Ou...
Oui, j'ai une raison derrière ça. Mais avant, c'est que autour d'un verre sur la Grande Allée avec un ami à moi qui a été au Parti québécois, nous avons dénombré 5 anciens députés du Parti québécois qui se sont lancés en politique municipale. Donc, je vais les nommer rapidement. Catherine Fournier, qui veut être mairesse de Longueuil.
Oui.
Mathieu Traversy, qui a été à Radio-Canada avec le Club des Ex, qui veut être maire de Terrebonne. André Villeneuve, qui veut être maire de Berthier. Et après ça, on a parlé aussi de Guillaume Tremblay, qui est un ancien député de Masson, qui souhaite diriger la ville de Mascouche. Et j'ai un ami à moi aussi, qui est un ancien député péquiste, qui se présente comme conseiller municipal à Québec.
OK.
Oui, je me suis posé la question, mais pourquoi? Une petite blague, là, mais le Parti québécois aime l'environnement, donc je pense qu'ils veulent se recycler. Donc, ils font du recyclage, alors.
Mais c'est quoi? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils se sont dit on arrive moins à rejoindre les gens via la plateforme du Parti québécois? On va aller, tu sais, parce que moi, je le dis toujours, la politique municipale, c'est vraiment... l'instance qu'on est, tu sais, il y a plus de proximité avec les gens. Fait qu'on, parce que Catherine Fournier, corrige-moi si je me trompe, Irénée, mais elle avait déjà quitté le Parti québécois, elle, hein? C'est ça? C'est elle qui était rendue seule à un certain moment, puis parce qu'elle disait que ça n'avançait pas assez vite à son goût, là.
Non, ça n'avançait pas assez vite, et alors elle a écrit un livre, elle a quitté le caucus du Parti québécois, et elle est devenue indépendante, et je pense que, étant pragmatique, elle a constaté qu'elle ne pourrait pas se faire réélire comme députée.
C'est bon.
Pourquoi, donc, je vais aller dans ton sens, c'est que les libéraux, eux, ont toujours utiliser la politique municipale pour occuper le terrain. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est que la politique municipale est une politique de proximité. Donc, on est en contact direct avec la population. Ça, c'était une de mes réponses. Donc, tu m'as scoopé.
C'est le même, moi.
Parfait, j'aime ça. Mon autre explication, c'est que les députés se sont rendus compte que réalisent, ou les anciens élus, que la souveraineté n'est pas à l'agenda des Québécois et des Québécoises et qu'il faut passer à autre chose. Et ça m'a fait penser à M. Parizeau, qui a été premier ministre et chef du PQ, qui avait dit, ça c'était une belle-mère que, en tout cas, on pourrait revenir là-dessus, que le Parti québécois était devenu un champ de ruines. Ça, c'était... Donc, ils sont pragmatiques, se disent, non, le message ne passe pas, on va aller ailleurs. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que la politique, c'est une drogue dure. Donc, le sévrage est très difficile. Donc, les gens qui font la politique, ce sont des êtres humains extrêmement sensibles, qui aiment l'attention, qui aiment les honneurs, qui viennent avec ça. Et je pense que quand ils retournent dans leur vie de tous les jours, c'est très difficile.
Ouais, de décrocher, de ne pas être dedans, d'être plus impliqué. Là.
Oui, oui. Puis, je peux te citer aussi un ancien ministre de Charest et de Cuillère qui s'appelle Laurent, hein, comme toi, Laurent Lessard. Il avait déclaré à un média, en parlant de sa retraite politique, il avait dit, quand tu quittes la politique, c'est tellement ta vie change beaucoup, et que si tu reçois un courriel, c'est peut-être toi qui te l'as envoyé toi-même.
Okay.
Donc, ça illustre ce recyclage des députés, anciens députés du Parti québécois en politique municipale.
Tu nous parles aussi du chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, qui, par rapport là, au dossier du contrôle des armes à feu. Mais là, il y a des maires là, de différentes villes. Là. J'ai vu que la bombe s'est joint au mouvement. Là. Il y avait déjà Valérie Plante, etc., qui ont fait une sortie là, parce qu'on veut qu'on resserre le contrôle des armes à feu. Parce que là, à Montréal, là, c'est la foire totale, là, on va se le dire.
Oui.
Un crime, presque à chaque jour, on entend parler d'une fusillade. Puis là, les conservateurs, ils ne savaient pas trop sur quel pied danser. Là. J'ai pas fait le jeu de mots qui se sont tirés une balle dans le pied.
Parce qu'il me semble que ça a été fait abondamment,
mais ça reste ça quand même. Là.
Oh oui, ben c'était. Je vais aller.
Tu vas y le faire, toi? Tu veux y aller?
En termes militaires, là, c'était un sujet explosif pour les conservateurs.
Okay.
J'ajouterais même radioactif.
Ok, bien fait.
Oui, oui. Alors, c'est un dossier dont M. O'Toole n'arrive pas à mettre derrière lui. Et la sortie des maires aujourd'hui, la bombe s'est déplacée à Montréal et le point de presse était à 9h un lundi matin. Et nous savons, nous qui travaillons dans les médias, que lundi matin, si tout sort dans les médias à 95%, on va parler de toi.
Oh oui, c'est sûr, ça va faire l'actualité. Tandis que si tu sors ça le vendredi en fin d'après-midi, tu sais, quand tu veux passer quelque chose qui ne fait pas ton affaire, tu passes ça vendredi en après-midi, ça va passer comme dans l'eau, là, comme un coup d'épée dans l'eau.
Donc, tu oublies ton message finalement, tu veux juste passer ça rapidement. Et la sortie des maires, donc, qui demande aux partis politiques d'interdire la possession des armes d'assaut. Et j'ai trouvé que c'était une attaque, un feu nourri contre Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur. Et sa campagne allait bien jusqu'à maintenant. Et lui, son problème, c'est que dans sa plateforme électorale, il dit qu'il va abolir le projet de loi 571 et le décret libéral qui interdit les armes d'assaut. Donc, c'est ça qu'il voulait parce que il veut faire plaisir à sa clientèle, surtout de l'Ouest et régionale dans les régions, donc les agriculteurs, les chasseurs et les tireurs sportifs.
Okay.
Alors, quand il a subi les attaques du Parti libéral, du Bloc québécois et du NPD en gros, il a reculé. Et il a dit que finalement, dans sa plateforme, il a contredit sa propre plateforme en disant qu'il allait continuer comme les libéraux l'ont fait. Cela a fâché complètement sa base, ses députés. Il y en a un de la commune britannique.
Ouais, c'est sûr que là, l'Ouest, certains députés, eux autres, se sont dit crime, moi, je vais me faire harceler dans mon comté s'ils commencent à reculer tout d'un coup sur ce point-là.
Oui, donc, il a reculé, puis en le faisant, il a même, en revenant sur ce que son député avait dit, il a dit c'est moi le chef. Donc, c'est moi le chef, les autres doivent.
Tempérer. Mais ça, c'est pas bon un peu aussi, René, parce que des fois, le Parti conservateur, je pense à l'époque d'Andrew Scheer, on dirait qu'il voulait jamais enfoncer un autre. Fait que là, il se prononçait tout le temps à moitié. Là. Tant que ça, c'est. Tu sais, à un certain moment, ça reste que c'est le chef, c'est lui qui décide. Là.
Oui, mais c'est lui qui décide, mais le Parti conservateur que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus le même Parti conservateur que nous avions chez Mulroney. Brian Mulroney. Donc, il a dirigé le Canada pendant deux mandats, dans les années 80. Et le Parti conservateur aujourd'hui est né des cendres du Parti réformiste de Preston Manning. Alors, M. O'Toole, je pense qu'il est plus pragmatique et il a dit il veut que son parti se dirige plus vers le centre. Mais sa base, n'est pas contente de ça.
Oui, mais c'est ça, c'est parce que là, c'est au détriment de perdre justement sa base. Là,
oui.
Mais en même temps, sa base, vers qui qu'elle pourrait se tourner? Parce que, tu sais, tous les autres partis, c'est plus de centre ou de gauche. Là, je les vois pas aller voter pour le Parti vert, ou même les libéraux ou autres, la NPD, on oublie ça.
Oublie ça, là, oublie ça.
C'est ça.
Donc, c'est ça, mais c'est ça qui va... qui est difficile avec sa stratégie, c'est qu'il ne veut pas déplaire à sa base, alors que moi, j'ai l'impression que sa base pourrait ou voterait pour lui en fermant les yeux.
OK.
Et elle peut faire des bruits. Sauf que, il y a quelque chose qui s'est passé en Alberta il y a quelques années. Le Parti conservateur a été au pouvoir pendant presque 42 ans. En Alberta, là. Donc, c'était presque un parti unique. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vécu en Alberta pendant plusieurs années. Il y a quelques années, je ne me souviens pas c'était en quelle année, le NPD a pris le pouvoir en Alberta. La province la plus conservatrice, je pense, au Canada, avec la Saskatchewan. Donc, il ne faut jamais, 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 jamais sous-estimer la force des partis. Mais, ayant dit ça, je ne crois pas que les Albertains éliraient plusieurs députés libéraux ni du NPD, et surtout pas le Parti vert, ça ne marcherait pas. Donc, lui, il est pris avec son désir d'aller chercher les libéraux plus à droite,
oui,
et sa base à droite. Donc, il est, en tout cas, ça va pas bien pour lui, là.
OK, parfait. Regarde, Irénée, il va falloir qu'on se reparle, mais c'est vraiment intéressant. Il y a deux campagnes en parallèle, là, présentement. Il y a le municipal, bien sûr, ici, du côté de la Rive-Sud, Rive-Nord, c'est un peu partout. Il y a aussi du côté de Montréal, avec Valérie Plante contre Denis Coderre, ça risque de brasser de plus en plus, ça aussi. Mais on a le fédéral. Là. Le fédéral, ça s'en vient tranquillement. On rappelle que le vote, c'est bien le 20 septembre.
Oui,
il va y avoir de plus en plus de débats. Fait qu'on va s'amuser avec leurs différentes prises de position, les chefs, etc., les sorties. Ça brasse tout le temps, on le sait, dans l'actualité politique. C'est tout le temps le fun de te parler.
Oui. Laurent.
Vas-y, je te laisse une minute.
Tu me laisses une minute. Je vais respecter la minute que tu m'accordes. Et tu voulais qu'on parle au début du chef du Bloc québécois.
Oui, mais c'est parce que tu en avais parlé. C'est juste que Yves Blanchet, tu en avais parlé la semaine dernière. Alors que tu avais dit qu'il était très « me, myself and I », je me rappelle de ça, qu'il était un peu arrogant. Puis le pire, tu avais commencé à parler parce qu'entre autres, il y avait eu un point de presse qu'il n'avait pas laissé assez parler une de ses candidates. Mais ça m'a fait rire parce que la journée d'après, il y a un journaliste qui a carrément posé une question. Là, malheureusement, on trouve plus l'extrême, je vais le raconter. Là. Il posait une question, puis carrément, il disait, là, il y a plusieurs personnes qui dénoncent le fait que vous êtes arrogant, que vous ne laissez pas assez parler les autres. Mais c'était tellement drôle de voir son non-verbal, parce que pendant qu'il écoutait la question du journaliste, il était comme à côté... Tu sais, quand on dit à côté dans son coude, là, dans sa paume de main, là, on leur dira qu'il a fini. Shoot, là. Puis là, après, quand il a fini sa question, il a comme fait. En tout cas, tu sais, en voulant dire, là, je sais pas si c'était supposé être une question, mais il a répondu d'une façon arrogante. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Perso, j'ai trouvé ça drôle.
Oui, oui. Alors, aujourd'hui, donc, après ta question sur Messenger, j'ai fait une petite recherche et Michel David, qui est chroniqueur politique au Devoir, un excellent chroniqueur politique. Dans une dernière chronique, il avait dit, en parlant de Yves...
François Blanchet.
Oui. Disait que, j'ouvre les guillemets, il a tendance à vouloir faire son smack. Et je ferme les guillemets. Alors, ça illustre notre propos à l'endroit de M. Blanchet.
Excellent. Ben, je te remercie bien gros, Irénée. Ah, t'as respecté la minute, en plus. C'est bon, ça. Puis continue de m'envoyer des petits messages enrobés de cœur. Ça me touche particulièrement.
Et c'est chaud dans la vanité.
Il y a de l'amour
dans l'air. Je te remercie bien gros, Irénée. On s'en parle la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
Salut, bye. C'était Irénée Routemont, chroniqueur politique. Des fois même plus.